Nous sommes en novembre 2016 et vous écoutez l'épisode 81 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et pour m'accompagner, j'ai avec moi non pas le spécialiste de la guerre froide qui est Père Castor, mais Harold Moore, le riche héritier de Miskatonic, en quête de phénomènes paranormaux. C'est difficile à dire ça. Qui répond aussi sous le nom de Matt dans notre univers nonctulien. Salut Matt, ça va ?
Salut Dédé, ça va très bien, merci de m'accueillir auprès de tes micro-abonnettes.
Bah de rien. Donc quand je cite Harold Moore, c'est pour parler de Quid Novi. Je sais pas si vous avez déjà terminé votre scénario de jeu de rôle.
Alors oui, on l'a terminé, il s'est terminé sur une mort affreuse, je ne dirais pas la mort de qui pour ne pas spoiler.
Pas de spoiler, voilà, pas de spoiler.
Et en fait, la deuxième, on a une deuxième campagne qui est en cours dans l'univers de Cthulhu, toujours mais avec des autres personnages. Donc là, Barberousse est au montage, on en est à 3 ou 4 après-midi de jeu dessus, donc il va y avoir un sacré nombre d'épisodes. Donc beaucoup de boulot pour lui, on soutine Barberousse.
Bah merci à lui. Donc on vous envoie chez Quid Novi si vous voulez écouter des parties de leur partie de jeux de rôle.
Et voilà. Ce sera avec grand plaisir.
Et merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et d'ailleurs, si vous passez dans la boutique, pensez à leur faire un petit coucou de notre part. Et un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Et merci aussi à Madame Blu pour son don en nature.
Parce que... Oula.
Oui, on ne sait pas si Monsieur Blu est au courant, mais Madame Blu... Enfin, si, il est au courant, il nous a dit « Ah, mais mon don en nature, c'est pas que moi, c'est Madame Blu aussi. » C'est une affaire de couple. Ils donnent tous les deux en couple... Ils sont sympas.
Le joueur est partageur, effectivement.
Voilà. Donc voilà, donc on va vous présenter nos différentes chroniques. On va commencer par les plateaux numériques. Alors Cyrus, il nous parle de Lanterne The Harvest Festival. Donc, alors vous allez me dire, ça sent l'arnaque, parce qu'on l'a déjà entendu ce truc-là. En fait, c'est pas Brie Grincheux qui nous l'avait déjà présenté. Il nous avait présenté le jeu de tuiles. Et là, Cyrus, il nous parle de la version iPad, sachant qu'il est aussi sorti sur Android. Et toi, Matt, tu joues sur iPad, Android, tu joues un peu sur ces plateformes ?
Bah, je joue, mais pas vraiment en jeu de société. Ah. Je sais pas si tu considères qu'Hearthstone est à la limite entre jeu de société.
On a parlé, je pense, c'est du jeu de société parce que c'est quand même un jeu de cartes. Hein. Ouais. On va pas se le cacher, c'est un peu du Magic caché, quoi.
C'est vrai. Donc il y aurait ça, effectivement, mais sinon j'ai eu des expériences malheureuses jusque-là. Après, peut-être que le format tablette aide à avoir des jeux intéressants, mais. J'ai rarement trouvé des applications qui m'ont convaincu dans ce domaine-là.
Bah, il y a Ascension, je ne sais pas si tu fais un peu de deck building Ascension.
Je crois que j'avais testé, mais j'avais trouvé ça un peu austère. Après,
Les graphismes sont assez particuliers. Même de la, ils ont repris les graphismes de la version papier, quoi, enfin, de la version carte. Mais c'est vrai que c'est assez. C'est pas des licornes, quoi. Hein. C'est violent, quoi.
Non, mais ça y est, tu me catégorises complètement, là. Non, mais pourquoi pas réessayer, mais c'est vrai qu'à part ça...
C'est bien de pouvoir trouver des gens avec qui jouer un peu toujours, quoi. C'est ça aussi, de connaître des gens. Et puis après,
c'est peut-être ça aussi qui m'a bloqué.
Voilà, de se vanter comme fait Cyrus quand il est...
Oui, je le vois souvent, ça.
Ça, tu dis, ah tiens, je t'ai bien laminé sur ce jeu.
C'est important de piétiner son adversaire.
Bah oui, c'est ça. Ouais, en public, surtout.
Toujours,
en public.
Toujours. Traîner son corps autour de la cité, c'est toujours cool.
Avec la tête sur une pique et tout ça. Quoi de mieux ?
Quoi de mieux ?
Donc on va écouter Cyrus tout de suite qui nous parle du jeu Lanterne sur iPad. «
Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses, bienvenue dans ce nouveau numéro des plateaux numériques, c'est Sirius. Alors tout d'abord je voulais remercier les tipeurs grâce auxquels je suis pour la première fois équipé d'un tout nouveau micro ce soir. Alors un grand merci à vous, j'espère que la qualité du son s'en ressentira et que vous trouverez le son bien meilleur qu'avant. Passons maintenant aux choses qui nous rassemblent. Je vais vous parler ce soir de Lanterns The Harvest Festival. Alors Lanterns The Harvest Festival est un jeu de Christopher Chung pour 2 à 4 joueurs annoncé pour des parties de 30 minutes et à partir de 8 ans. Il a été édité pour la première fois par Foxtrot Games et Renegade Game Studio en 2015 via un financement participatif sur Kickstarter. Le jeu a bénéficié d'une version française par Matago en 2016 sous le nom plus court que vous me permettrez d'utiliser pour cette chronique de Lanterns. Ce jeu vous a déjà été présenté dans une chronique jeu du mois par Papy Grincheux, alias Stéphane, dans l'épisode 77, partie chronique. Je vais malgré tout tenter de vous en faire une petite description rapide. Alors, Lanterns, c'est un jeu de tuiles qui se déroule dans une ambiance chinoise, dans lequel on va vous proposer de déposer des lanternes lumineuses sur un lac par une belle nuit d'été. Il va donc falloir rassembler des lanternes pour obtenir soit 7 couleurs différentes, soit 3 paires de lanternes, soit 4 lanternes identiques. Quand au début de notre tour on a un de ces 7 de lanternes adéquats, on va pouvoir revendiquer un de ses objectifs, ce qui va nous donner des points, et à la fin du jeu c'est le joueur qui a le plus de points qui remporte la partie. Simple. Au cours du jeu, les joueurs jouent une tuile à tour de rôle de façon adjacente aux tuiles déjà positionnées sur le plateau. Les tuiles sont carrées et présentent sur chacune de leurs côtés une des 7 couleurs de lanternes du jeu. Lorsqu'une tuile est posée, encore une fois c'est très simple, chaque joueur prend une lanterne correspondant à la couleur qui lui fait face. Le joueur actif, lui, va en plus pouvoir prendre des lanternes pour les couleurs qu'il a réussi à connecter, à faire correspondre avec les tuiles déjà en place. Je vous passe les détails, je vous renvoie à la chronique de Stéphane si vous voulez en savoir un peu plus sur le jeu. Donc, le portage a été assuré par Direwolf Digital, donc c'est en fait le premier jeu porté. Le jeu est sorti le 1er novembre 2016, simultanément sur Android et iOS. La version iOS est disponible au tarif de 4,99€, tandis que la version Android est annoncée au tarif de 5,49€. Je vais de mon côté vous parler de la version iOS. On rentre maintenant dans l'application. On va avoir la chance de découvrir un tutoriel, un petit peu planqué, c'est vrai, il faut aller dans l'onglet règles. L'application, on va très vite s'en rendre compte, est uniquement en anglais. Le tutoriel, lui, est ma foi de bonne qualité. Alors c'est vrai, les règles du jeu sont assez simples, mais voilà, le tutoriel fait tout à fait le job. Il va expliquer les règles au fil d'une partie dans laquelle vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez, et l'application va réagir et va vous apprendre les règles petit à petit, ainsi que le fonctionnement de l'interface. Voilà déjà un premier bon point pour l'appli. En ce qui concerne les modes de jeu, il existe différents modes. Un mode local qui permet de jouer seul, appelé mode solo. Il existe également un mode de jeu pour jouer à plusieurs. Il ne va permettre de jouer qu'avec des joueurs humains sur la tablette. On va pas pouvoir ajouter d'IA. Côté solo, on va pouvoir ajouter des IA, évidemment. Et on a 3 niveaux de difficulté proposés. Il existe également un mode de jeu online qui va nous permettre de jouer des parties classées. Et on a également la possibilité d'inviter des amis. Alors, fonctionnalité que je n'ai pas essayé parce que je n'ai pas trouvé d'amis qui avaient l'application ou qui étaient prêts à créer un compte dans l'application. Parce qu'en fait, il faut créer un compte pour pouvoir jouer en ligne. Alors, pourquoi ce compte? Tout simplement, l'application étant disponible sur Android et iOS et étant cross-platform, eh bien, voilà, il faut créer un compte interne à l'application. Ce qui, pour moi, est plutôt un point positif puisque on va pouvoir, grâce à ce compte, jouer avec des gens qui sont soit sur Android, soit sur iOS. Pour autant, la masse critique des joueurs ne semble pas atteinte sur l'application, puisqu'il est assez difficile de créer des parties avec des joueurs en ligne. Passons maintenant au gameplay, à l'ergonomie du jeu. Alors, l'ergonomie est vraiment très soignée. On a une ergonomie globale qui est tout à fait adéquate au jeu. On a une bonne vision d'ensemble du jeu. Un design qui a été revu pour l'application et qui est vraiment rehaussé par rapport aux jeux de société. On a des jolies petites lanternes qui se déposent sur le lac. On a la sensation vraiment de les déposer sur l'eau avec un effet sonore tout à fait adapté. On a une bande son qui est totalement adaptée à l'application, qui colle parfaitement au thème. La bande son va vraiment nous emmener dans une ambiance assez zen, chinoise, une atmosphère tout à fait enveloppante, des sons orientés nature, des sons de carillon éolien, qui vont nous immerger dans un thème qui pourtant était franchement pas gagné. Et pour que moi je vous dise que je joue avec la musique, honnêtement, je pensais pas que ça m'arriverait un jour sur une application iOS. En tout cas, je trouve vraiment la musique tout à fait adaptée au thème. Pour continuer sur l'ergonomie, on a une bonne vue d'ensemble avec le score de l'adversaire en permanence, les tuiles des objectifs qui sont visibles, sans faute sur l'ergonomie. Alors faisons un petit bilan maintenant, les points positifs, les points négatifs, avec les points que j'aurais éventuellement, que je n'aurais éventuellement pas souligné jusque-là. Alors vous l'aurez compris, l'ergonomie, les sons et la musique sont vraiment un point positif de cette appli. On a trois niveaux d'IA qui sont plutôt respectés. On a une application qui propose des challenges, des sortes d'objectifs qui vont permettre aux joueurs d'approfondir le jeu. A priori, il n'y a aucun bug à déplorer dans l'application, en tout cas dans la version dans laquelle j'ai essayé le jeu. L'application propose également des durées de partie qui sont très courtes. En termes d'inconvénients, on n'a pas la possibilité d'annuler un coup dans l'application, même si c'est relativement rare de se tromper dans l'application, d'avoir en tout cas cette possibilité de se tromper, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir la possibilité dans les options de dire oui, j'autorise l'application à m'arrêter à chaque coup si nécessaire pour que je puisse revenir en arrière. Voilà. Alors c'est sûr que ça peut bloquer la fluidité de l'application, mais je suis plutôt pour le positionnement de cette fonctionnalité dans les options. Alors, un autre point négatif, il n'y a pas de rappel du coup qui a été joué par l'adversaire lors d'une partie en pass and play. Alors ça c'est vraiment dommage, je pense que c'est le point négatif le plus important dans l'application. On ne peut pas se souvenir systématiquement du positionnement des tuiles précédemment et donc en déduire ce qui s'est passé. Je pense que c'est un point qui serait pourtant facile à corriger puisque c'est une fonctionnalité qui existe lorsqu'on joue en ligne. Et donc pour finir, deux points que j'ai déjà cités, le fait que l'application n'atteint visiblement pas la masse critique de joueurs pour jouer en ligne, et puis le fait que l'application soit uniquement en anglais, ce qui n'est pas rédhibitoire pour autant, mais parce que l'application est relativement simple, et si vous faites 2-3 parties de l'application, quitte à les perdre, vous aurez compris comment ça se joue. En ce qui concerne les autres fonctionnalités, on a un système de rang mondial, on a un accès aux règles format papier, mais qui ont été revus pour s'intégrer mieux à l'application. On a évidemment la possibilité d'activer et désactiver la musique et les effets sonores, la possibilité de faire remonter un feedback, ce qui se fait de plus en plus de façon intégrée dans les applications, une visualisation du classement mondial, d'un classement parmi ses amis, et une visualisation de son état d'avancement dans les challenges proposés par l'application avec le niveau qui apparaît, niveau 1, niveau 2, etc. Je rappelle les tarifs, 4,99€ sur iOS, 5,49€ sur Android. Mon avis, bien voilà, c'est un jeu qui est simple, c'est un jeu qui est facile à prendre en main, le portage est d'excellente qualité et c'est un jeu qui se prête bien à ce genre de portage. Donc c'est une vraie plus-value cette application pour le jeu. Le jeu est tout à fait jouable, évidemment la configuration pass and play est pas la configuration idéale, mais ça marche. En tout cas à 2 c'est très bien, à 3 ou 4 je recommanderais peut-être pas d'utiliser le mode pass and play et je vous enverrai vers le jeu aux formes physiques. Voilà, vous aurez compris, vous avez mon feu vert pour acheter ce jeu et on ne pourra pas dire que vous avez pris vos vessies pour des lanternes en achetant ce jeu. À la prochaine et d'ici là, jouez bien!
Alors merci Cyrus pour cette chronique. Donc on saura maintenant qu'on peut jouer même en cross-plateforme, tu vois, même Android et iOS. On peut jouer. Et justement, il avait trouvé personne pour jouer avec lui. Mais c'est peut-être parce qu'il se vante un peu trop de...
Ah bah oui, plus personne n'ose l'affronter.
Parce que, mais je sais pas si quand il perd, il affiche aussi ses scores comme ça.
Bah j'ai pas l'impression. Après, j'ai pas envie
c'est
de...
bizarre.
J'ai pas envie de supposer des choses atroces, mais...
Ok, bon, on va pas... On va pas polémiquer là-dessus.
Là. On enchaîne.
On va enchaîner avec le top 500 BGG. Donc, il va nous parler, Père Castor, d'un jeu nouveau dans le top 500, parce que la dernière fois, il n'était pas dans le top 500. Alors, je lui ai rappelé à l'ordre. Je lui ai dit, ta chronique, c'est top 500. Top 500, pas 600 ou je ne sais pas combien il était la dernière fois. Et donc, il nous parle de Dead of Winter. Un jeu post-apocalyptique avec des zombies. Alors, est-ce que le thème des zombies, toi, ça te plaît ou t'es du genre à dire oh non les zombies il y en a trop ou...
Non, ça a tendance à me plaire. Après c'est vrai que j'ai l'impression qu'en ce moment, je sais pas ce que t'en penses, mais que le thème il est un peu en perte de vitesse. Est-ce que c'est parce que les gens commencent à s'emmerder dans Walking Dead ou est-ce que c'est parce qu'on en a trop vu?
Je sais pas, il y a Zombicide qui fait toujours des bons scores en Kickstarter. Mais c'est vrai qu'après, c'est un peu toujours... on peut pas révolutionner le jeu de zombies. Hein. C'est toujours, t'as une horde et faut essayer de te barrer, quoi.
J'ai l'impression qu'on se tourne plus dans du médiéval ou même du futuriste.
Ouais, c'est vrai que... C'est vrai qu'à Essen, il n'y avait pas trop de jeux sur les zombies. Bon, après, il y en a toujours, hein, ça. On peut pas éviter, quoi, mais... C'est vrai que c'est un peu moins... Ben, peut-être que les gens se lassent aussi, ils disent oh, « encore un jeu de zombies ». C'est vrai que les gens se lassent.
En l'occurrence, il a l'air intéressant, Dead of Winter.
Dead of Winter, oui, j'ai fait deux parties. Mais en fait, c'est un jeu collaboratif, mais avec un traître. Et le traître, c'est ce qui fait toujours toute sa saveur.
Ben oui.
Donc c'est sympa. Donc on peut dire ah mais non mais j'ai pas les cartes pour faire ça. Alors qu'en fait.
Ouais. Puis ce qui est sympa c'est que dans ce petit sujet on a l'avis du groupe aussi.
Il nous a fait un petit débrief de partie avec son groupe. Donc on peut avoir. Alors on apprend que Père Castor il a pas toujours les bonnes règles.
Oui.
Alors ça nous est tous arrivé de faire.
Je jetterai pas la pierre. Hein, la dernière fois que t'es venu chez moi, on a joué sur un jeu pendant 2 heures avec les cartes qui étaient pas forcément les bonnes, mais bon.
Ça arrive à tout le monde. Mais oui, Dead of Winter, c'est sympa. Donc on va écouter Père Castor qui nous parle du jeu et son petit débrief.
Salut les joueuses et salut les joueurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 500 BGG. En cette période post-Halloween et pré-hivernale, je vais vous parler du jeu adéquat qui est à la croisée de ces deux périodes. Les branches des arbres sont effeuillées, le thermomètre n'atteint plus les valeurs positives, les premiers flocons sont arrivés et les dernières boîtes de conserve ont été consommées. Et les morts sont revenus. Vous avez trouvé refuge avec un groupe de survivants dans des abris de fortune baptisés la colonie. Vous savez que cet hiver sera encore plus rude que le précédent. Au fond de vous, vous savez que le danger ne vient pas que de l'extérieur des murs et vous ne savez pas à qui faire confiance. Dead of Winter à la croisée des chemins est un jeu de Jonathan Gilmore et Isaac Wega, édité par Playhat Game et francisé par Philosophia. Le jeu est jouable de 2 à 5 joueurs pour des durées de partie de 60 à 210 minutes, pour des joueurs de 14 ans et plus. Le jeu pointe à la 27e place au classement BGG. Vous le retrouverez chez Philibert au tarif de 53,90€. Dead of Winter est un jeu coopératif que je qualifierais d'alternatif, car non seulement vous devez remplir tous ensemble un objectif commun, mais en même temps, pour vous assurer la victoire, vous devrez réaliser un objectif personnel tenu secret. En plus de cela, vous devrez faire face à plusieurs menaces, comme la propagation des zombies, la pénurie de nourriture, la résolution de crises qui vont consommer des ressources, et pire encore, peut-être qu'un traître se cache parmi vous. Chaque coup dur affectera le moral de la colonie, et il faudra lutter âprement pour ne pas faire chuter le moral au risque de perdre la partie. Peut-être qu'un traître se cache parmi vous, et si vous avez ce rôle, vous devrez saper le moral de la colonie et réaliser votre objectif personnel. Cette mécanique empêche l'effet leader que l'on peut reprocher au jeu purement coopératif, car le fait d'être traître ne se limite pas à saboter la partie en essayant de contrecarrer l'objectif commun des joueurs. Du coup, un métagame va s'instaurer, car on peut se montrer suspicieux vis-à-vis des actions des joueurs en se demandant à chaque fois s'il œuvre pour le bien-être de la colonie, contre la colonie ou pour son objectif personnel. Vous avez le choix entre différents scénarios pour différentes longueurs de jeu, et vous pourrez faire varier la probabilité de la présence de traître ou non. Et pour vos premières parties, vous pourrez même la jouer sans traître, donc en purement coopératif. Vous démarrez la partie avec un groupe de 2 survivants, qui vous procure une force de travail. La force de travail est représentée par des dés que vous pourrez dépenser dans des actions comme de l'attaque de zombies, ou encore de la fouille, ou de la construction de barricades. Ou même l'attaque de survivants si vous pensez qu'ils œuvrent contre le bien-être de la colonie. Lors de vos fouilles, vous trouverez divers équipements qui vous seront utiles soit pour réaliser des actions, soit pour remplir l'objectif commun, ou alors encore pour remplir l'objectif personnel. Le grand plus du jeu, qui vient un petit peu bouleverser la partie purement mécanique, c'est la présence des cartes à la croisée des chemins. Lors de votre tour, le joueur situé à côté de vous va piocher une carte à la croisée des chemins, et il va la lire secrètement. Si jamais une des actions que vous réalisez ou qu'une des situations déclenche la carte, eh ben, il va se passer un événement qu'il va lire, et cet événement va vous proposer deux choix de résolution. Ces cartes permettent d'apporter un aspect dark narratif au niveau du jeu, ce qui est très intéressant. Alors je vous invite à découvrir Dead of Winter, et tout de suite je vous propose un petit débriefing de partie suite à deux parties que j'ai pu jouer avec des amis qui sont dans mon groupe de joueurs. Salut les joueuses et salut les joueurs. Alors on vous propose une nouvelle intervention, ça sera pas forcément une chronique régulière, mais on va faire un petit débriefing de partie. Donc je suis avec mon groupe de joueurs, donc on est quatre autour de la table. Je suis accompagné de Marine, Jennifer et Polo. Merci à tous les trois de vous prêter au jeu du micro. Alors juste pour résumer très rapidement vos profils de joueurs, on peut dire que vous êtes pas forcément des joueurs très réguliers, mais vous acceptez volontiers que je vous impose un jeu plus ou moins velu lorsqu'on a l'occasion de se rencontrer et de faire une partie. En tout cas, vous n'avez pas peur d'une grosse boîte, hein. Je pense qu'on peut dire ça.
On va faire un petit débriefing. On a profité d'Halloween pour faire deux parties de Dead of Winter. Donc c'était une découverte du jeu
pour vous trois.
Donc on a fait une partie le 31 au soir, qui s'est un petit peu mal passée parce qu'on n'avait pas forcément les bonnes règles.
Ouais.
Et on a refait une partie parce qu'on était un petit peu frustrés, parce que j'avais un petit peu foiré la mise en place. J'avais mis deux cartes de traître à la place d'une.
Ouais, sur cinq, c'était coton. Hein.
Voilà, donc c'était pour gamer, c'est tout.
C'était un petit peu compliqué, voilà. Même en jouant l'objectif facile et la partie d'initiation, c'était pas évident. On va juste un petit peu résumer la partie. Donc c'est un jeu coopératif avec un objectif commun qu'il faut résoudre et également des objectifs personnels. Et potentiellement, un des joueurs sera un traître. Polo, toi, t'avais jamais joué des jeux collaboratifs, hein.
Non, pas spécialement. Si, un petit avec l'effet d'artifice. Comment il s'appelait déjà celui-là?
C'est Anabi.
Ouais, voilà, Anabi, ouais. Mais bon, celui-là, j'avais pas trop apprécié, moi, parce que du coup, t'as forcément tout le monde qui se met à tricher pour réussir à remplir l'objectif, quoi.
Toi, Marine, t'avais déjà joué à des jeux coopératifs?
Ouais,
moi,
j'avais joué, je crois, à un des volets de Pandemia, quelque chose comme ça.
Pandémie,
ouais. Celui où on doit combattre les dés.
La maladie.
Ouais, la maladie. Mais la maladie sous forme de dés, et on est tous censés coopérer. Mais
la version DICE.
Voilà, je sais plus lequel, il y en avait plusieurs et je sais plus lequel c'était. On avait perdu à chaque fois. On avait joué quatre fois et...
Et là, vous aviez pas triché.
Ah non, là, tu peux pas tricher, tu peux pas.
Est-ce que vous aviez assez de dés?
Bah, justement, je pense qu'il y en avait trop, en fait. C'était un peu le problème.
Donc, petite allusion, là, parce que, effectivement, j'avais pas donné assez de dés pour effectuer les actions de Dead of Winter. Bon, ça, c'est
sur la
petite
partie
technique. Votre ressenti sur les deux parties qu'on a faites, je sais pas, Jen, tu veux peut-être commencer?
Alors on l'a ressenti, moi j'aime bien de toute façon tout ce qui est coopératif parce que j'aime pas perdre. Donc je trouve ça pas mal.
Ouais, mais là tu peux très bien participer à l'objectif commun mais perdre ton objectif personnel.
Oui, mais tu sens que tout le monde n'est pas contre toi, tu vois, par rapport à un autre jeu, c'est ça qui est bien, tu sens que t'es quand même un peu aidé, t'es pas tout seul dans ton jeu et ça j'aime bien.
C'est bien qu'on te donne des conseils même si potentiellement c'est des conseils qui t'induisent en erreur. Hein.
Mais non, je trouve ça cool de jouer ensemble. En plus, le thème, c'est vrai que c'est pas mal, comme le jeu de zombies qu'on avait déjà joué ensemble.
Donc ça, c'était Last Night on Earth.
Voilà.
Donc là, je vous renvoie au numéro 70. C'est le tout premier jeu que j'avais chroniqué pour le top 500.
Et c'était pas mal du tout aussi. Donc là, c'est un peu dans le même thème, je trouve. Ce qui est bien, c'est que t'as plus d'action que dans le premier qu'on avait fait.
Ouais.
Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que du coup, la contrepartie, c'est que t'attends un peu ton tour, quoi, ce que je te disais avant. Mais dans l'ensemble, c'est un jeu qui est intéressant parce que t'as plein de possibilités, quoi. T'es pas bridé dans ton jeu, en fait. Tu peux vraiment faire plein de combinaisons possibles, quoi, ce qui le rend intéressant.
Ok. Marine, qu'est-ce que tu voulais nous dire?
Non, moi j'ai trouvé ce jeu de zombies particulièrement sympa, encore plus effectivement que le tout premier finalement. Parce que je rejoins donc sur le fait qu'il y a beaucoup plus de possibilités. On n'est pas juste sur des actions d'attaque ou de fouille. Il y a vraiment plein de trucs. Le fait qu'il y ait deux objectifs personnels, la gestion de la crise aussi, ça fait vraiment un truc très complet, quoi. Puis c'est pas compliqué non plus, parce qu'on pourrait se dire il y a tellement de trucs à faire, finalement on s'en sort pas, mais si, en fait on s'en sort très bien.
Jen, toi tu me disais après notre première partie que t'avais cette frustration de pouvoir pas faire tout ce que tu voulais entreprendre comme action.
C'est ça. parce que rapport au dé.
Bon, on n'avait pas assez de dés, effectivement.
C'est vrai qu'à un moment donné, dans le jeu, je me suis dit, mais c'est pas possible, on doit faire tellement de choses et c'est comme si on n'avait pas assez de moyens pour le faire.
Surtout, ce qui est compliqué, c'est quand t'as un objectif commun qui rentre en conflit avec la crise du moment.
C'est ça, oui, parce que oui, en plus de l'objectif commun, il y a la gestion de la crise. Après, t'as le risque de perdre des points de morale. Tu as ton compteur qui défile. Ce que je disais aussi, qui était intéressant, c'est de savoir que t'as un peu une deadline. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Donc c'est vrai que il y a un moment donné avec les 2 dés au lieu de 3. C'est vrai que je lui dis, mais attends, moi je suis super frustrée là, j'ai l'impression que je peux pas faire tout ce que je devrais faire.
Et finalement, une fois qu'on avait le bon nombre de dés,
là,
ça allait mieux.
Mais c'est vrai qu'après, t'es plus l'autre frustration, toujours encore, parce que Maxime, en bon pro gamer, me dit, mais c'est normal, dans les jeux, tu es toujours un peu frustrée, Jennifer. donc voilà. Mais une fois que t'as les bons nombres de dés, je trouve qu'il est vite frustrant, c'est quand t'as au départ pas des forcément bons personnages et que tu vois qu'il y a des inégalités, c'est-à-dire comme Marine, par exemple, qui s'était vite retrouvée avec 3 personnages. Moi, j'en avais que 2. Il y en avait un qui devait rester finalement un peu au même endroit, sinon ça qui n'était pas intéressant. Donc au final, c'est vrai que je me sentais un peu lésée dans le sens où mon tour en 5 minutes c'était fait. Et puis bon, Marine en plus en grande narratrice, alors là je vais faire ça, je vais déplacer ça, je retiens 2, je multiplie par 3.
C'est important de commenter, voilà.
Comme c'est
coopératif,
c'est
parfait. Il faut informer les autres.
Mais du coup, toi tu te dis, mais attends, j'ai pas fait autant de trucs. Et c'est vrai que la frustration elle est plus là. Mais moins dans le sens, t'as pas l'impression
que... Moi j'ai juste vidé la décharge de cartes.
C'est ça. T'as l'impression qu'il y en a, ils ont quand même des meilleurs rôles que d'autres, mais bon, après, c'est le principe.
Ouais, c'est ça. Ça dépend un peu des personnages. Parce que moi aussi, dans la deuxième partie qu'on a fait, je me suis senti un peu la routine, quoi. Je me suis installé et voilà, j'avais à chaque fois la même chose à faire sur les 6 tours ou 5 tours qu'on avait. Donc, ouais. Je me suis juste installé, c'était très bien. Alors, c'était équilibré, mais je regardais surtout les autres jouer, en fait.
Ah, du coup, c'est parce que le pouvoir de ton personnage te dictait un petit peu trop les actions que tu devais faire.
C'est ce qui m'est arrivé aussi, puisque le mien en colonie, c'est là où il avait toute sa force. Donc, finalement.
Bon, après, c'est peut-être lié à l'objectif aussi, hein, parce que là, on a joué 2 fois le même scénario. Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a.
Qu'est-ce qu'il y a dans les autres scénarios aussi,
Alors, dans les autres scénarios, tu vas. Ça, c'était le scénario d'initiation où il faut tuer donc un certain nombre de zombies en fonction du nombre de joueurs. J'ai pas encore lu les autres scénarios, mais t'as plus de la collection d'items pour l'objectif commun.
Ouais.
D'accord.
Donc un peu comme les gestions de crise finalement, mais en plus diversifié.
C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'apport des cartes à la croisée des chemins? Donc ces cartes, hein, autour d'un joueur, le joueur qui est situé juste à sa droite, il va piocher une carte qui va contenir un arc narratif qui va peut-être être déclenché en fonction d'une situation ou d'une action d'un joueur. Polo, tu voulais peut-être nous en dire un petit mot?
Oui, ben moi j'ai bien apprécié. Franchement, c'est une très bonne idée parce que du coup, tu sors un peu de ta routine et ça fait à chaque fois marrer quand il se passe un truc, quoi. Donc non, c'est vraiment bien comme principe.
Bah, faut dire qu'aussi,
le fait de casser la routine avec ça, je trouve ça très bien, quoi.
Ils ont fait un bon travail de texte, en fait. Hein, c'est pas.
Alors,
c'est quand même des gros paquets.
Plus, je valide.
On a quand même une prof de français avec nous.
C'est vrai que quand tu parles d'arc narratif, c'est vrai que c'est sympa parce que tout de suite, si la personne qui lit en fait la carte met un peu du cœur, tout de suite l'impression qu'il se passe un truc, quoi. Ce qui est renforcé par le petit fond musical qu'on avait là. Attention, un zombie va vous attaquer. Et puis t'as le bruit du zombie qui attaque, la porte qui se claque, le verre qui se brise, c'est génial.
Ouais, c'est ce qu'on avait parlé dans un des épisodes d'été sur YouTube. On trouve une bande son qui dure près de 2 heures et qu'on peut diffuser pendant une partie. Et ça peut rajouter un petit peu de tension parce qu'il y a de la musique assez basse. On entend du vent, du blizzard, et de temps en temps, on entend une planche qui craque, on entend un zombie hurler. Et ça peut. On a eu d'ailleurs un hurlement pendant la partie.
Donc je tue un zombie et là gros bruit, c'était pas mal.
Ok, donc bonne expérience de jeu. Est-ce que vous pensez accepter une autre partie si je vous en propose une?
Ça dépend s'il y a de la bière.
Ah non, carrément.
Ouais, bien sûr. Ouais, très bon jeu à refaire.
Non, c'est un des jeux les plus complets qu'on a pu jouer.
Ouais, tout à fait.
Parce que c'est vrai qu'il y a quand même plein de d'items, de choses qui peuvent se passer, aussi bien au niveau des cartes, des croisées des chemins, aussi bien au niveau de la baisse de morale, tu peux la monter, la baisser, après t'as une gestion de la crise, t'as tes persos, enfin c'est vrai que
tout ça
complet.
Ça peut éviter un peu la routine, on va dire. Bon, non,
parce que je pense même si on y jouera 10 fois, ça va jamais être pareil, quoi. Même là, on a joué, si tu veux, la même partie, c'était pas pareil.
Ouais, tout à fait.
Et il reste super accessible, moi je trouve, il est pas dur à prendre en main.
Oui, c'est vrai.
Tu mets un peu de temps à comprendre tout ce que tu peux faire, mais une fois que tu l'as, ça roule tout seul.
Non, mais je trouve pas trop dur. par rapport au jeu qu'on avait pu jouer, le truc des galaxies, là où fallait.
Ouais, Roll for the Galaxy. Donc là, c'est un jeu un petit peu plus.
Ça, c'était plus dur.
Plus mécanique, hein, un petit peu plus technique, ouais.
Je trouve, là, alors que c'est vrai que si tu joues avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer, le principe, il est quand même assez simple.
Bon, tu le présentes à des personnes peu habituées à jouer, il peut quand même rebuter Dead of Winter, parce qu'il y a quand même énormément d'éléments à prendre en compte, entre les actions que tu peux faire, les actions qui nécessitent d'aider, les actions personnelles, les actions que tu vas faire en faveur de la colonie.
Ouais.
Tout ça aussi, ça apporte un petit peu de metagame, parce qu'il faut que tu anticipes, est-ce que je vais faire ça pour l'objectif commun, ou est-ce que je vais plutôt favoriser mon objectif personnel. Donc ça aussi, ça peut rentrer en ligne de compte.
C'est vrai. Bon, une partie comme hier, c'est sûr qu'avec deux traîtres.
Une petite erreur.
C'était complexe.
Là, tu comprends plus rien, mais c'est sûr.
Deuxième erreur de mise en place, effectivement. Je voulais augmenter la probabilité du nombre de traîtres et j'ai mis deux cartes traîtres au lieu de diminuer le nombre de cartes objectif personnel. Petite erreur de ma part.
Et ce qui était drôle d'ailleurs, c'est que les traîtres l'un l'autre ne comprenaient pas pourquoi ils jouaient de cette façon.
Voilà, quand on essayait de saboter une crise.
Comprenaient pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui fasse la même chose.
Voilà. Voilà, donc il y a toujours qu'un traître au maximum dans une partie, hein, donc ça. J'ai bien retenu la leçon. Ok, bah je sais pas si vous voulez rajouter un petit mot sur ce débriefing de partie.
C'était cool.
Ok, ouais. Donc à
c'est
refaire.
Badass.
C'est badass. Ouais. Bon jeu.
C'est mieux sans barbiche quand même. Non, je rigole.
Il triche, lui, je suis sûr, il triche.
Ok, donc merci à vous pour cette petite participation à ce débriefing de partie. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Et d'ici là, jouez
bien.
J'ai cru que le chien avait chopé une mousse de micro.
Merci Père Castor pour cette chronique. On va enchaîner avec notre duo qui nous parle des jeux solo. C'est assez, c'est tout.
La punchline.
Voilà. C'est sympa ça comme punchline. Je l'ai gardé ça.
Ouais, franchement.
Voilà. Donc c'est Stéphane alias Papy Grincheux et Élise qui vont nous parler de deux jeux solo. Au voleur et IQ Candy. J'ai pas un aussi bon accent que Élise, mais. On comprend mon.
Oui.
Voilà. Alors, au voleur, c'est une course de voiture dans laquelle on joue la police qui doit bloquer une voiture. Et en fait, c'est bizarre parce que d'habitude, dans les jeux, on joue le voleur qui tente de s'échapper de la police. Dans les jeux vidéo et tout ça, c'est toujours l'inverse, non ? C'est pas.
Ouais, c'est vrai. À part Need for Speed qui a démocratisé le fait de jouer le voleur et le policier.
Mais... Voilà. Mais dans les premiers Need for Speed, tu jouais quand même le voleur.
Oui,
il y avait
oui,
la police
oui.
qui te coursait.
Ouais.
Qui te coursait et tout ça. Moi, je me souviens, j'avais un ami qui jouait à ça et il insultait la police parce que t'avais la police qui te disait rangez-vous sur le bas côté et lui il l'insultait encore de plus belle.
Il pensait qu'il y avait un micro sur la console.
Je ne sais pas, mais il était vraiment à fond dedans.
D'accord.
Et alors du coup
ça donne envie de jouer avec cette personne.
je ne répéterai pas les insultes qui proféraient à l'antenne parce que c'était Peggy 18, mais
on a des gens passionnés dans cette émission. Ouais, en tout cas avec Cyrus c'est des joueurs passionnés.
Voilà. Donc on va écouter tout de suite Stéphane et Élise.
Bonjour, c'est Stéphane
et Élise.
Et on se retrouve pour notre deuxième chronique de jeux en solitaire, de casse-tête. On appelle ça aussi des jeux de logique. Et aujourd'hui, Élise, tu vas nous présenter deux jeux. Lesquels ?
Au voleur et IQ Candy, tous les deux des jeux de Smart Game. Smart Game, oula.
Smart Game, oula. C'est un nouvel éditeur.
Oula, oula.
Non, alors, on va commencer par au voleur. Tu veux me décrire au voleur ? Non, c'est moi ?
Oui, vas-y.
Ok. Au voleur est un jeu de poursuite en voiture. Ceux qui ont joué à des jeux vidéo dans les années 80, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait plein de petits jeux où on avait une voiture rouge et on devait échapper aux policiers dans un labyrinthe de ruelles. Il y avait beaucoup de jeux vidéo comme ça, je pense à Chicago 90, etc. Ben, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est des pièces qui ressemblent d'ailleurs à des tétromino, c'est-à-dire c'est des petites pièces qui font penser un petit peu à des pièces de Tetris. On a en forme de L, en forme de barre. On a des blocs qui sont des maisons, donc on ne peut pas passer au travers. Et on a une petite voiture rouge. La position de départ, souvent, c'est de disposer la voiture rouge quelque part, les blocs. C'est même tout le temps comme ça, en fait. À partir d'une configuration donc de ville, comme ça, un peu comme un niveau de jeu vidéo, avec la petite voiture rouge au milieu, toute seule de la rue, vous allez prendre toutes les autres plaques en force de tétromino, avec chacune une voiture de police dessus, et vous allez essayer de barrer la route à la petite voiture rouge des voleurs. Et pour ça, en fait, il faut faire attention. Tous les chemins orthonormés, hein, c'est ça, en vertical et en horizontal, soient bouchés autour de la petite voiture rouge pour pas qu'elle puisse s'échapper.
Pour pas qu'elle puisse s'enfuir.
Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle au voleur.
Voilà.
C'est pas simplement la forme des tétrominos qu'il faut faire attention, c'est là où sont les voitures dessus. Donc des fois, il y a même deux formes, en fait, deux pièces qui ont exactement la même forme, sauf que c'est la voiture n'est pas au même endroit. Donc il faut réfléchir un peu tout ça. C'est un jeu qui est en 3D.
Oui.
C'est vraiment très joli.
C'est très mignon.
Et il y a des petites voitures. Et Elise, tu vas nous parler un petit peu de ce que tu penses de ce jeu ?
Bah, elle est très bien, hein. Par contre, j'ai l'impression des fois qu'on est un petit peu bloqué parce qu'il faut faire vraiment attention où sont les voitures de police. Et donc, du coup, bah, pas que la petite voiture rouge puisse s'enfuir. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis après, bah, sinon, dans la notice, il y a 60 niveaux de starter à master. Et puis voilà.
Et au niveau des difficultés, tu trouves ça bien ?
Oui, ça va.
T'en es où ?
J'en sais rien. Je crois que j'en suis au niveau 20 à peu près.
D'accord. Moi personnellement, c'est pareil, c'est un jeu que j'aime bien parce qu'il raconte une histoire et très bien fait. Ça, je vous dis, ça me fait penser aux petits jeux vidéo que j'avais quand j'étais sur Amstrad, ça me fait bien plaisir. Puis le matériel est fantastique. Malgré ça, je trouve que le jeu est facile en fait à emporter parce que la boîte est bien conçue. Il y a un petit élastique en fait qui peut permettre de tout refermer. On galère pas à le ranger, ça c'est assez rare pour être souligné.
Oui, c'est vrai.
Donc ça s'appelle Au voleur chez Smart Game. Ah oui, on n'a pas parlé du carnet de solutions.
Donc le petit carnet, c'est un carnet à spirale. Et avec, après, au début, il y a les niveaux et à la fin, il y a toutes les solutions. Elles sont très faciles à lire vu que c'est juste un placement de pièces. Donc, du coup, bah voilà. Et tout à la fin, je viens de remarquer qu'il y avait un petit time tracker. Donc, pour marquer tous ces temps qu'on a fait.
Ah oui.
Donc, du coup, voilà.
On découvre des choses à la fin des manuels qu'on lit jamais.
Oui, j'avoue. Bah voilà.
Ok. C'était donc Au voleur, qui est une francisation en fait d'un jeu qui s'appelle, je crois, voilà. Le jeu, vous le trouverez des fois sous le nom de Roadblock. Le deuxième jeu dont on va parler aujourd'hui, Elise.
Donc c'est IQ Candy. Donc c'est un jeu, moi je le trouve plutôt mignon. Enfin, chez les blocs, enfin en fait, on a une petite plaque, donc comme pour Au voleur, avec des blocs, enfin pas avec des blocs, mais des sortes de pièces.
Des ergots
et non mais en fait moi je parlais des pièces pas des
d'accord
donc avec des petites pièces en forme de tétra machin chouette là
tétramino
donc de plusieurs couleurs et de plusieurs formes, il y en a 7 et il y a des petits ergots sur la plaque et on doit faire il y a plusieurs formes, enfin plusieurs trous on va dire sur les pièces pour pouvoir les placer
malgré les ergots
voilà. Et donc du coup, bah pour la petite notice, à chaque fois, il vous impose des déjà certaines pièces, et après il faut compléter la petite grille. Donc c'est vraiment super facile. Enfin moi j'ai déjà terminé une fois. Là maintenant j'en suis au niveau 13. Enfin j'ai recommencé, j'en suis au niveau 13.
Ah tu le refais une deuxième fois ?
Ah ouais.
D'accord.
Non mais c'est ça, on peut jouer à l'infini donc on peut en profiter.
Super. Alors moi je trouve ce jeu très pratique pour les déplacements parce qu'il est vraiment très compact. Il y a un petit plateau qui doit faire à peine, je sais pas, il fait ma main quoi. Donc effectivement très facile à emmener parce que les pièces elles trouvent naturellement leur place quand on résout le puzzle en fait, c'est comme si on le rangeait. Et on a juste à remettre le couvercle. Il est tout en plastique, très léger. Alors c'est aussi son défaut, c'est-à-dire que le matériel est vraiment plastique et quand on le manipule,
moi,
ça fait un petit
bien
peu
ce bruit en fait.
Un bruit de plastique. Toi t'aimes bien parce qu'il y a des petites couleurs acidulées, alors ça te plaît. Voilà. Alors, ça raconte pas d'histoire. C'est sûr que les bonbons, c'est dans l'imagination.
Non, mais des bonbons, c'est pas dans l'imagination. Tu les manges.
Ok.
Non, mais je sais pas, moi.
Je vais la faire en mangeant des bonbons. Et puis voilà. Sinon, je trouve bien. Ouais, il est agréable. Mmh. C'est assez...
Oui.
Il est retors parfois. Hein. Des fois, on a des solutions. On croit y l'avoir. Puis en fait, il manque juste un dernier. Il y a le dernier petit ergot qui est pas dans le bon sens. Et,
oui,
faut
parce
tout refaire,
que oui, c'est
ou
ça.
Tout inverser. Et c'est pas si évident que ça.
Donc bien évidemment il y a des pièces qui ont la même forme mais après les trous sont pas exactement au même endroit, pas les mêmes, voilà. Donc parlons maintenant de la notice. Donc cette fois ça va de starter à wizard, non pas master. Donc ils ont découpé différemment mais il y a toujours 60 niveaux. Donc les solutions, vu que c'est toujours des pièces à mettre à la bonne place, et ben du coup c'est les solutions sont très faciles à lire. Et puis après elles sont faciles à lire aussi parce que c'est des couleurs. Donc du coup bah c'est plus simple. Et puis bah voilà.
Voilà. Donc c'était les deux jeux de notre chronique de jeux de casse-tête. C'était donc IQ Candy et Roadblock, traduit par Overler, tous les jeux des jeux
de Smart Game.
Je me lasserai jamais de ton accent anglais.
Smart Game.
D'accord. Et je vous mettrai les liens pour notre partenaire Philibert. Petite précision, si on tenait à préciser au sein de l'équipe aussi, tous les jeux qu'on chronique sont des jeux qu'on a achetés nous-mêmes. C'est pas des jeux qu'on nous offre. Hein. C'est fait partie des principes de ce podcast chez Proxy Jeux. On chronique non pas des jeux qu'on nous offre, mais des jeux qu'on s'est payés. Voilà. Alors voilà. Eh ben Elise, au revoir.
Au revoir.
Et puis à la prochaine fois, on va chroniquer. Qu'est-ce qu'il reste ?
Alors, il reste l'aventurier de Smart Game et Color Coup de je ne sais quoi.
Voilà.
Une Color Coup, c'est un peu un sudoku avec des petits.
On en parlera la prochaine fois. Et Elise, en attendant, jouez bien.
Même tout seul.
Même tout seul.
Merci Elise et Stéphane pour cette chronique. On attend votre prochaine chronique avec impatience. Et on retrouve Yannibus qui nous parle de Chauzon ou Chausson, enfin on ne sait pas. Un jeu de majorité, donc avec des schlopas, c'est ça?
Oui, si vous avez un mot, vous avez un mot associé. Oui.
Voilà, on a le mot schlopa en Alsace. Si on vous dit quand vous arrivez chez un Alsacien, s'il vous demande de mettre les schlopas, c'est qu'il vous demande de porter ses charentaises. Voilà, comme ça. Parce que proxy, c'est proximité, tu vois.
Oui. Tout à fait.
Voilà, donc c'est. On a Père Castor et Flavien qui nous décodent les mots du jeu de société. Bah moi je vous décode un petit peu d'alsacien à chaque
fois. Le lexique alsacien, c'est super.
Voilà. Alors donc c'est un jeu coréen qui est arrivé jusqu'à nous avec des graphismes coréens. c'est pas du manga mais c'est un truc dans une ambiance un peu steampunk. C'est sympa.
Ouais, bah c'est très coloré. Ouais.
Ouais. Et on va l'écouter, lui donner son avis sur Chauzon.
Bah c'est quoi ce jeu ?
Sous le buzz, par Yannibus.
Salut les joueurs, salut les joueuses, salut la Proxy Team. J'espère que vous allez bien et que l'hiver s'empare de vos maisons, que vous ne sortez plus et que vous avez beaucoup plus de temps pour vous asseoir instable et jouer aux jeux de société. C'est mon cas et ça m'a permis de ressortir il y a quelques jours la suite de Corio, Chauzon, que je vais chroniquer aujourd'hui. Chauzon se passe dans un univers uchronique, steampunk, j'imagine à base de famille de Corée du Sud, enfin historique de Corée du Sud, puisque son auteur est Gary Kim, donc qui est un auteur coréen. La maison d'édition est Monster Game. C'est un jeu qui est sorti en 2014. Chauzon fait suite à un jeu qui a eu pas mal de succès, au moins critique, qui s'appelait Corio, qui en reprend les principales mécaniques. Dans Chauzon, donc 2 à 4 joueurs s'affrontent pour la suprématie, on va dire, sur la Corée du Sud. Cette suprématie se traduit par, en fait, la majorité dans plusieurs familles. Le jeu se déroule en 8 tours. À chacun des tours, les joueurs vont pouvoir choisir de jouer une ou plusieurs cartes. Vous pouvez jouer une carte spécifique ou alors plusieurs cartes de la même famille. Et ensuite, à chaque tour, les majorités sont recalculées. Chaque famille offre des pouvoirs pour le joueur qui est majoritaire au moment du calcul des majorités, donc à chaque tour de joueur. Les pouvoirs vont permettre d'acquérir, on va dire, des points de victoire permanents, d'acquérir des protections ou d'attaquer d'autres joueurs pour réduire leur nombre de cartes de famille. Ce qui est intéressant dans Chauzon, c'est que chaque famille, donc ça va de 1 à 9, le numéro de la famille, c'est le nombre de cartes qu'il y a de la famille. Donc par exemple, il y aura 5 numéro 5, 8 numéro 8, etc., etc. Donc les majorités sont assez rapidement calculées entre les joueurs. Ce qui intéresse, c'est que les tactiques en fait changent en fonction du nombre de joueurs, puisque bah, c'est différent d'être majoritaire de la famille 5 quand on est 2 joueurs, 3 ou 4 joueurs, etc. Donc il faut en fait à chaque fois adapter son jeu au nombre de joueurs qui jouent avec vous. Alors pourquoi est-ce que je pense que Chauzon mérite cette chronique? Je trouve que il reprend, donc comme je le disais, les grands principes, on va dire, de Corio, les complexifie un tout petit peu dans la partie possibilité en fait d'action à son tour. En fait, vous pouvez jouer plusieurs types de cartes à votre tour, alors que dans Corio c'était beaucoup plus simple. Mais il propose des pouvoirs beaucoup plus intéressant, beaucoup plus interactif et surtout en interaction avec d'autres pouvoirs des autres familles. Et il propose également des cartes d'attaque qui sont dépendantes de la carte de famille avec laquelle vous la jouez, ce qui rajoute beaucoup de stratégie en fait à vos parties. Chauzon est un jeu certes stratégique, mais dont les durées de partie dépasse rarement, même à 4 joueurs, les 25-30 minutes, ce qui permet d'en faire plusieurs et de tester différentes façons de gagner. Chauzon a également la particularité d'être un petit jeu et donc de pas coûter très cher. Il est aujourd'hui à 18€ chez notre partenaire Philibert. Si vous cherchez un jeu donc assez original, c'est un peu l'eau là. Il y a quelques années des auteurs coréens, on pense à Gary Kim pour Corio Chauzo, on pense au Love Letter et puis à toute la série de jeux minimalistes qui est sortie d'Asie. C'est vraiment des jeux sur lesquels il faut vous pencher. C'est pas des jeux qu'on a l'habitude de voir sur le marché européen ou américain, et je pense que c'est assez original dans une ludothèque. Je vous conseille vraiment de prendre l'un des deux. À choisir, moi ce serait plutôt, comme vous le comprenez, Chauzon. Voilà, c'est une courte chronique aujourd'hui. Je voulais juste mettre un peu en lumière un jeu qui me tient à cœur et que j'ai redécouvert de nouveau il y a quelques jours, comme je vous le disais. Le mois prochain, ce sera un autre sous le buzz. J'essaie de trouver plutôt des petits jeux en ce moment, parce que je pense que, d'une part, nos budgets n'étant pas extensibles, le mieux est de se focaliser sur des jeux un petit peu moins chers, et puis ça permet de les acheter. Et puis, si vous vous trompez, vous n'aurez pas fait un gros, vous n'aurez pas trop amputé votre budget jeu ou votre budget familial. Voilà, en espérant vous trouver en forme le mois prochain. D'ici là, jouez bien.
Alors, merci Yannibus pour cette chronique sur Chauzon, un jeu qu'on retrouve bien sûr chez notre partenaire Philibert. Et ensuite, Olivier va nous parler de Codename. Alors Codename, il va se prendre pour James Bond, parce que bien sûr c'est nom de code, c'est pas Codename, les petits boulots de printemps.
Ah, je suis très déçu. En cette période hivernale, ça aurait fait du bien.
mais c'est pas encore le nouvel an chinois, donc ça. Ah. Mais donc, il prend déjà un peu d'avance, il vous souhaite même de bonnes fêtes.
Oui, il fait confiance au montage.
Ouais, voilà. Oh non, attends, je monte assez rapidement quand même.
Ah bah, je ne veux pas de détails sur ta vie. Bref.
Ok, on écoute tout de suite Olivier nous parler de Codename.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, je suis Olivier DPJ et aujourd'hui je vais vous parler de Codename. Codename est un jeu de Vladash Vatil pour 2 à 8 joueurs à partir de 12 ans et pour une durée de partie d'environ 15 minutes. C'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit à Essen 2015 et qui a été francisé par Yellow en 2016. Les joueurs vont incarner des espions et vont jouer en équipe les uns contre les autres. Sur la table seront disposées 25 cartes sur lesquelles est écrit un mot. Ça peut être terre, bon, œil, éponge ou Amérique, par exemple. Ces noms sont en réalité des noms de code, les codenames, d'informateurs qui peuvent renseigner l'une ou l'autre des équipes. Dans chaque équipe, l'un des espions aura la tâche de faire découvrir à ses coéquipiers le nom des informateurs de son équipe. Alors attention, il y a des informateurs qui sont bleus pour l'équipe bleue, rouges pour l'équipe rouge, il y a aussi des informateurs qui sont neutres et un assassin. L'équipe qui va découvrir en premier le nom de tous ces informateurs va gagner la manche. En général, on fait plusieurs manches et l'équipe qui aura gagné le plus de manches aura gagné la partie. Inversement, l'équipe qui découvre l'assassin a perdu la manche. Alors comment est-ce que le maître espion fait-il découvrir le nom des informateurs à ses coéquipiers? Eh bien, il va indiquer à ses coéquipiers un chiffre et un mot. Un exemple, si le maître espion a à faire deviner les mots gland et pomme, il peut dire par exemple arbre et deux. Il indique qu'il y a deux mots à trouver et qu'ils ont un rapport avec l'arbre. Les mots à faire découvrir pour chaque équipe est indiqué sur une carte. Les mots en rouge pour l'équipe rouge, les mots en bleu pour l'équipe bleue. La rejouabilité est donc quasi infinie puisque les mots ne vont pas se retrouver au même endroit d'une partie sur l'autre sur la table. Lorsqu'il est paru en 2015, à Essen donc, Codename a fait un véritable buzz. Et c'est un jeu qui a été extrêmement apprécié. J'ai un avis qui est un tout petit peu plus mitigé, un peu plus tiède. J'ai pas fait énormément de parties, les parties que j'ai fait n'ont pas laissé un goût impérissable. Codename est un excellent jeu de déduction, mais un jeu un peu froid et surtout très exigeant. Ça demande pas mal de réflexion quand on est le maître espion pour donner un peu plus qu'un indice par mot. L'idée étant que c'est une course et qu'il faut bien sûr retrouver les informateurs avant l'équipe adverse. Et du coup, ça peut être un peu dur pour certaines personnes de trouver les bons indices et ça peut être un peu long lorsque quelqu'un réfléchit et d'attendre que les indices soient donnés. Donc vous l'aurez compris, le problème ne vient pas forcément du jeu mais des joueurs. Choisissez bien votre groupe de joueurs et vous allez passer une très bonne soirée. Dans le même ordre d'idée, Agent Trouble nous propose également un jeu de déduction. Un peu plus fun, un peu plus facile pour ceux qui sont pas trop à l'aise, puisque tout le monde va s'exprimer à tour de rôle de façon très succincte et amener sa pierre à l'édifice pour démasquer l'espion. Je ne vais pas m'étendre, on en a déjà parlé dans un autre épisode de Proxy Jeux et je vous renvoie à celui-ci. Codename est donc tout de même un très bon jeu, plutôt un filler, c'est-à-dire un jeu qu'on va sortir entre deux parties de jeu un peu plus gros, à réserver plutôt à des joueurs à l'aise, mais qu'on peut très bien tout de même sortir en famille, avec des enfants, pour mettre un petit peu de challenge, ou avec les parents. C'est d'ailleurs une excellente alternative au Scrabble. C'est un jeu intelligent, intéressant, simple à expliquer, et qui plaira sans doute à des gens qui ont l'habitude des jeux de lettres. Donc Codename, c'est sorti en VF chez Yellow. C'est encore un jeu à petit prix, 18€ chez Philippe Bernet. Ça se joue beaucoup. De 2 à 8, mais plus intéressant de jouer peut-être à 6 ou 8. Beaucoup de matériel dans la boîte. Des cartes non, il y en a 200. Un sablier, des cartes clés, les cartes pour repérer la couleur des noms. Une belle réalisation comme on en a l'habitude chez Yellow. Je ne sais pas trop quand cette chronique sera mise en ligne, je pense à la fin du mois de novembre. Je vous souhaite en avance d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que vous serez gâtés, que vous recevrez plein de jeux, bons jeux de société, pas la bonne paye, ni le Monopoly, et que vous aurez ce que vous souhaitez sous le sapin. Le mois prochain, je vous parlerai d'un autre jeu de communication, Fiasco, paru chez Edge. Et en attendant, mangez bien!
Merci Olivier, mais comment ça manger bien, c'est jouer bien. Tu as déjà pris de l'avance sur les fêtes de fin d'année et les raclettes de l'hiver, où on peut dire manger bien. C'est vrai qu'au lieu de dire bon appétit, on pourrait lancer la Proxy Team et tous les auditeurs. Maintenant, vous allez remplacer à la place de dire bon appétit à vos collègues quand vous avez parti manger, vous direz mangez bien. Oui. Ça, on va lancer un truc.
On peut lancer une mode. On peut partir de ça.
on va lancer une mode. Donc voilà, dites mangez bien tous les midis à tout le monde. Parce que normalement on dit pas bon appétit, non? Il n'y a pas une histoire comme ça.
Alors j'ai arrêté de dire à tes souhaits, mais bon appétit, je crois que je le dis encore.
Ou tu dis bon app, comme on dit. Ça, c'est
ouais,
truc, ça,
c'est jeune ça.
C'est jeune ça.
Mais ils doivent sûrement déjà dire autre chose là. Bon app, j'ai l'impression que ça sonne limite ringard, je sais pas.
Ouais, moi je trouve que ça fait quand même ringard. Les
ouais.
Qui disent bon app. Enfin bon, non, on va pas se faire d'ennemis.
Non, mais manger bien, c'est pas mal ça. Ouais, c'est efficace.
On va lancer à manger bien. Voilà. Ensuite, on va parler des vieilleries, des vieux jeux vidéo. Tu fais du rétro gaming, toi ? T'as acheté la mini NES ?
Non, pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Par contre, j'ai fait beaucoup
de
brocantes.
Trop jeune.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. J'ai pas du tout. J'arrive très peu à. Rares sont les jeux auxquels j'arrive à rejouer, des jeux anciens en fait. Je trouve que souvent il y a quelque chose d'exaspérant dans les contrôles ou le feeling est pas bon quoi. C'est
vrai que Mario, quand on y rejoue maintenant, le premier Mario, c'est sûr que t'as pas de sauvegarde,
ouais.
Tu te dis mais. Et on jouait à ça des heures et tu meurs trois fois et tu recommences au début quoi. C'est le truc. T'as
après
pas
c'était
de
l'idée
quoi.
T'avais voilà. Que ce jeu-là où t'en avais deux ou trois maxi voilà. Et du coup bah tu passais des heures dessus quoi.
Et après tu regardes des vidéos maintenant de speedrun maintenant
où il
le finit en 5 minutes et tu te dis ah ok.
Mais moi tout simplement
des
le Roi Lion sur Mega Drive j'ai vu que le premier niveau et j'étais super étonné de découvrir qu'il y avait d'autres niveaux sur YouTube justement. Mais non oui en rétro gaming je suis pas très bon, par contre en brocante je suis pas trop mal. Je suis toujours
qu'est-ce
par contre
qu'est-ce que t'as trouvé en brocante
c'est ce que j'allais dire, je suis quand même émerveillé à chaque fois que je vois des gens dans le milieu du jeu de société qui disent voici ce que j'ai trouvé en brocante et là tu vois trois trucs vachement bien et deux petits trucs sympas. Moi, la seule grosse trouvaille que j'ai faite, c'était cet été, c'est le jeu de cochon. Je sais pas si tu vois ce que c'est un jeu de dés avec des cochons. Et c'est vraiment pas très pointu, hein, mais c'est juste que c'est un souvenir d'enfance. J'ai joué avec ma grand-mère.
Le cochon qui rit, c'est ça
Non, je sais pas.
Où tu lances un dé et tu dois rajouter un petit bout du cochon.
Non, en fait, le cochon lui-même est un dé, en fait. Et tu ajoutes des points en fonction de comment il tombe. Sur le groin ou sur le côté.
Ça me dirait, ça faudrait que je me renseigne.
Je l'ai eu à 1€, donc je suis assez fier. Je te montrerai la prochaine fois.
C'est pas parce que tu te lèves pas assez tôt, en fait. C'est pour ça pour les brocantes.
Ça doit peut-être jouer un peu. On va pas se mentir.
Tu vas à 16h.
Oui, c'est ça.
Non, mais même après, les jeux de société, c'est pas. Ça se trouve encore.
Ouais.
Ouais, ça se trouve encore même.
J'essaye toujours de regarder maintenant, mais c'est assez rare.
Ouais, mais après, faut de la chance. Quoi.
Oui, puis il faut en faire plusieurs peut-être.
Voilà. Et s'acharner, parce que moi, Dani, on sait qu'elle a trouvé un jeu super gang, alors que moi j'étais passé deux fois devant, mais je l'ai pas vu. Quoi.
Ah merde.
Mais il était sous plein de jeux pour enfants, ça l'intéressait aussi les jeux pour enfants, donc du coup, elle a dit ah bah tiens. Et du coup, elle a fouillé et elle a trouvé quoi. Faut fouiller en fait, c'est
ouais,
ça
faut
la.
Fouiller. C'est vrai.
Ben du coup, on va écouter donc Dani qui va nous parler des vieux jeux vidéo, donc de Pac-Man. C'est le mec qui vient avec son pack de bière.
C'est ça.
Et de Donkey Kong et de tout ça. On va prendre donc on prend notre DeLorean. Et on va l'écouter.
Fiou.
Salut à tous. Dans cette chronique vieillerie, je ne vais pas vous parler d'un jeu, mais plutôt de plusieurs, avec une caractéristique commune. Ce sont des vieux jeux dérivés de vieux jeux vidéo. Autant vous dire que je ne vous parlerai pas de StarCraft ou de Gears of War, mais je vais plutôt surfer sur la vague des jeux vidéo vintage, à l'occasion de la sortie de la NES Mini chez Nintendo, qui fait pas mal parler d'elle. Évidemment, c'est au début des années 80 que les premiers jeux apparaissent, et très étonnamment, l'un des premiers d'entre eux, c'est Pac-Man. Bientôt suivi par Frogger, Zaxxon, Donkey Kong, Popeye, Pitfall. En gros, c'est les jeux auxquels je jouais sur le Commodore 64 de la maison quand j'étais petite. Beaucoup de ces jeux ont été édités par MB avec des caractéristiques communes. Il y a une vraie volonté par le matériel et le graphisme de replonger les joueurs dans l'univers du jeu vidéo. C'est d'ailleurs un des points qui me séduit beaucoup dans ces jeux. Si on prend Popeye par exemple, auquel j'ai beaucoup joué sur Commodore, le plateau reprend exactement le graphisme du premier niveau de jeu. Au niveau du matériel, c'est plutôt travaillé aussi. Par exemple, dans Pac-Man, les joueurs ont des vrais Pac-Man en 3D qui mangent des vraies billes et il y a des vrais fantômes qui courent après les Pac-Man. Une des autres caractéristiques communes à tous ces jeux, c'est que ludiquement, c'est pas très complexe au niveau des règles. Si on prend Pac-Man, chaque joueur joue un Pac-Man, il jette un dé pour se déplacer sur le plateau pour gober des billes blanches en évitant les fantômes. Il peut gober une bille jaune pour bouffer les fantômes ou sortir d'un côté du plateau pour réapparaître de l'autre côté, exactement comme dans le jeu vidéo. Et au final, c'est celui qui a le plus de billes ramassées qui gagne. C'est sans prétention. Cela dit, cela reste un très chouette jeu. Pac-Man, c'est un des premiers jeux vidéo que mon fils a découvert et essayé. Je suis donc persuadée qu'il sera super motivé pour jouer à la version plateau, surtout avec les figurines Pac-Man et Fantôme qui feront leur petit effet. Il passera un bon moment et on n'en demande pas plus. Globalement, on n'en demande pas plus à ces jeux dérivés de jeux vidéo. Ce sont des jeux qui ont quand même dû bien se vendre. Il y a plusieurs indices qui me font dire ça. Le premier, c'est que j'en ai trouvé plusieurs en France et en français. Ensuite, rien que chez MB, il y en a presque une vingtaine de différents sur la décennie 80. Ensuite, il y a certains jeux de plateau, dérivés de jeux vidéo, qui ont eu leur propre dérivé en version jeu de cartes. J'en ai trouvé deux, Pac-Man et Donkey Kong, c'est évidemment les plus connus, mais ça montre quand même le potentiel commercial de ces jeux. Pour finir, on peut dire que la tendance continue. Si j'en crois Board Game Geek, il y a a priori une dizaine de jeux de plateau dérivés de jeux vidéo qui sont prévus pour 2017. Évidemment, c'est des jeux qui sont un peu plus complexes et élaborés au niveau des règles. Et où peut-on les trouver ? Pas vraiment chez Philibert, comme d'habitude, en tout cas pour les vieilleries, parce que les récents, vous les trouverez évidemment. Vous pouvez tenter les brocantes, on trouve assez facilement Pac-Man ou Donkey Kong, par exemple. Ensuite, sur le net, certains titres se trouvent à prix vraiment très raisonnable, et d'autres à prix totalement déraisonnable. J'avais notamment regardé pour trouver Zelda, forcément emblématique, et je crois que le seul qui était dispo était à 150€. Faut dire que là, on croise deux mondes, les collectionneurs de jeux de société et les collectionneurs de jeux vidéo, qui sont à mon avis un peu plus nombreux et encore plus fous que les collectionneurs de jeux de société. Autant dire que j'ai laissé tomber l'idée de trouver Zelda ou Ghost and Goblins. Cela dit, Ghost and Goblins a été édité uniquement en japonais et avec un visuel qui me rappelle pas du tout le jeu auquel je jouais quand j'étais petite, donc il m'intéresse pas tant que ça. Par contre, j'ai encore sur ma liste Pitfall, même s'il existe qu'en anglais, ou Pouillant, ou Centipede, juste pour le plaisir de citer des vieux jeux vidéo auxquels vous avez peut-être vous aussi joué. Je mettrai sur le billet le lien vers une geeklist que j'ai créée sur Board Game Geek avec les jeux des années 80 qui m'ont tapé dans l'œil. N'hésitez pas à y faire un tour et d'ici là, jouez bien.
Merci Dani pour cette chronique, donc jeux vidéo et jeux de société. Voilà les vieux jeux vidéo, les vieux jeux de société qui sont adaptés, enfin les vieux jeux de société qui sont adaptés des jeux vidéo quoi. Donc moi je sais que j'avais trouvé Donkey Kong en brocante. C'est bon, j'ai jamais joué, mais j'ai trouvé.
Ah mince.
Bah ouais, c'est ça, c'est.
C'est pour la collection.
Voilà, c'est pour la collection quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous rappelle que vous trouverez donc les rôlistes de Au coin de la table dans un épisode à part. Donc normalement ils ont eu leur studio, on a fait du montage, enfin ils ont fait du montage, bon, j'ai rien fait moi. Donc normalement le son devrait être meilleur que leur précédente émission. Donc on remercie encore les tipeurs qui nous permettent d'acheter du matos. Vous retrouverez aussi Cyrus et BenoFX dans leur épisode des jeux du mois. Donc ils nous parleront de Flamme Rouge. Alors Flamme Rouge, j'ai l'impression que c'est le nouveau dada de Cyrus là. Mm-hmm. Après Maudite Momie, il nous parle donc de Flamme Rouge à tous les épisodes. Et plus sur Twitter, pour ceux qui le suivent sur Twitter, ils verront que il sort souvent ce jeu. Donc un jeu de vélo pour ceux qui aiment le cyclisme. Il faudrait que je lui demande s'il a commencé à se mettre au vélo et s'il fait aussi 50 km par jour.
En cette période-là, je le conseille pas trop. Mais...
ah mais les vrais, ils sortent. Oui, c'est comme les vrais motards, quoi. Ils sortent tout le temps.
Ils
s'arrêtent pas. Mais c'est vrai que c'est plus sympa quand il fait beau. Quoi.
Oui, c'est clair.
Et ils nous parleront aussi de King Domino. Donc c'est deux, donc un jeu de domino. Donc deux jeux qu'on a ramené des scènes et qui marche bien, qui buzz bien en ce moment. Donc voilà, ils vous diront pourquoi il faut les acheter ou ne pas les acheter. Mais je crois qu'il faut les acheter.
Oh, le spoiler.
Non, parce qu'on l'a déjà dit. Quoi. Ah. On les a déjà achetés à Essen, donc oui. Les gens savent qu'on est fan. Mais on vous donnera encore plus de détails sur ces deux jeux, donc dans la chronique jeu du mois qui arrive bientôt.
Bah, c'est cool tout ça.
Bah oui.
Et que vous ayez aimé ou non l'émission, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeux.fr. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook. Notez-nous sur iTunes, mettez-nous des commentaires et surtout parlez de nous autour de vous. Et en attendant,
jouez
bien.
T'avais quelque chose à dire sur les solos encore ?
Non. Vous pouvez faire un solo de air guitare, mais au micro, ça marche moins bien, quoi. J'ai failli te demander une imitation de zombie, mais...
Ah.